bienvenue à l'émission Dans la mire climatique sur les ondes de Chiz 94.3. Donc, comme toujours, je suis en compagnie de mes deux collaboratrices, Annabelle et Jeanne. À l'émission aujourd'hui, nous allons discuter du lien entre l'alimentation et les changements climatiques. Donc, on va parler d'alimentation globalement, c'est-à-dire qu'on va parler en fait de la production alimentaire du secteur agricole, mais aussi de nos habitudes de consommation alimentaire. En gros, on va parler de comment les changements climatiques affectent notre alimentation et les pratiques agricoles. Et encore une fois, de qui, que ce soit des communautés ou des populations, vont être les plus affectées, qui vont être les plus vulnérables au niveau de la sécurité alimentaire, qui va être en fait influencée par les changements climatiques. Dans un deuxième temps, on va aussi aborder comment nos habitudes alimentaires, quand je parle d'habitudes alimentaires, je parle plus précisément de nos habitudes en Occident et plus précisément aussi nos habitudes alimentaires en Amérique du Nord. Comment ces habitudes-là ont un effet sur les changements climatiques? Et donc, comment nous pouvons faire notre part individuellement en changeant nos habitudes de consommation alimentaire? Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, ça serait bien de présenter un peu un portrait global là, de la situation. Donc, en ce qui a trait au secteur alimentaire, à quoi ça ressemble actuellement?
Oui, donc on va commencer avec le monde entier, en fait. Puis, si on veut savoir la part du secteur alimentaire, c'est quoi dans notre émission, dans notre production, en fait, de gaz à effet de serre, bien, il faut commencer par... s'intéresser, en fait, à chaque étape du processus de la production alimentaire parce que les aliments, oui, doivent être cultivés et consommés, mais ils sont aussi transportés. Parfois, ils sont transformés, préparés ou emballés, transportés de nouveau, puis consommés ou même gaspillés. Si on considère l'ensemble de ces étapes, en fait, l'ONU nous dit que l'alimentation est responsable du tiers des GES qui sont émis par les humains de l'ensemble de la planète. En fait, il y a une étude aussi qui est parue en 2021 qui a émis la conclusion comme quoi si le secteur alimentaire continuait dans la trajectoire du business as usual, donc comme on fait en ce moment, donc si on continuait avec cette trajectoire-là seulement pour l'alimentation, mais qu'on coupait toutes nos autres sources d'émissions dès demain, bien seulement la production alimentaire nous ferait dépasser notre objectif du 1,5 degré, et ce, avant le milieu de notre siècle. C'est quand même assez... dommageable, donc comme industrie, mais ces impacts ne se réduisent pas seulement en fait à la production de gaz à effet de serre. On peut aussi parler des impacts de l'agriculture, notamment sur les terres habitables. Donc la moitié des zones habitables ou occupables, sont en fait, c'est des terres qui ne sont pas de la glace ou du désert, sont utilisées pour l'agriculture. Donc c'est vraiment une proportion importante là, qui est allouée à notre agriculture. Également, 70% de la consommation globale d'eau douce est dédiée à l'agriculture. Puis finalement, une dernière petite statistique, là, en fait, 78% de l'eutrophisation des océans et des sources d'eau est causée par notre production agricole. L'eutrophisation, là, on parle de la pollution des cours d'eau, en fait, à cause de certains nutriments qui s'y accumulent.
OK. Super intéressant. On ne se rend pas compte, justement, de tout l'impact que la production alimentaire, les activités agricoles ont comme impact sur les changements climatiques. Donc, c'est quand même intéressant. Et pour comparer maintenant, est-ce qu'on a des données plus spécifiques sur le Québec et son secteur de production alimentaire?
Oui, mais dans le fond, au Québec, là, on est quand même dans la même veine que les statistiques reliées là, à l'échelle globale. Donc, le secteur agricole au Québec, ça représente aussi le troisième secteur le plus polluant. Donc, en 2020, là, ça serait responsable de 10,6% des émissions de GES de la province. Donc, c'est quand même là, une proportion qui est non négligeable puis qui est quand même peut-être là, difficile là, pour le moment encore là, à aborder dans son atténuation. Aussi avec le secteur des transports, parce que c'est ça, le 10,6, c'est vraiment là, ce qui est relié directement à la production agricole. Mais là, lorsqu'on ajoute tout le transport, là, la production... Évidemment, ça devient encore plus massif. Puis ce serait le seul secteur, dans le fond, dont les émissions auraient augmenté de 1990 à 2020. Donc, c'est vraiment un secteur qu'il va falloir considérer là, pour notre réduction dans l'avenir.
Oui, effectivement. Dans l'introduction, j'ai mentionné rapidement, en fait, qu'une autre conséquence des changements climatiques, c'était qu'ils affectaient la sécurité alimentaire au niveau global. Est-ce qu'on sait pourquoi les changements climatiques ont un si gros impact sur la production alimentaire? Et il y a un si gros impact aussi sur la disponibilité des aliments en général?
On parle d'effets sur la sécurité alimentaire en lien avec les changements climatiques parce que, bien, évidemment, la production et la disponibilité des aliments, ça dépend beaucoup des conditions climatiques reliées aux conditions agricoles pour la production. Donc, la hausse des températures, évidemment, liée aux émissions de gaz à effet de serre, va entraîner sécheresse, inondation et d'autres événements climatiques extrêmes qui vont nuire aux récoltes, que ce soit par le fait qu'ils vont rendre certaines zones là, non cultivables, donc infertiles. Ça, évidemment, là, on pense davantage là, aux sécheresses. Mais ensuite, les inondations, les événements climatiques extrêmes, bien, ça, c'est que, dans le fond, les récoltes vont être détruites avant là, le moment de pouvoir recueillir là, le produit là, de cette zone-là. Donc, c'est certain là, que ça va mettre à risque la sécurité alimentaire. Pour 2100, là, on s'attend à ce que ce soit jusqu'à un tiers des zones exploitées actuellement qui seraient là, rendues non disponibles. Pour répondre là, aux besoins alimentaires globaux.
Mm-hmm. Puis il faut prendre en compte sûrement, ben, en fait, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais la population mondiale là, va augmenter considérablement aussi, il faut le prendre en compte, alors que les terres agricoles, les terres utilisables pour la production alimentaire vont réduire, ben, la population nourrir va augmenter aussi, donc ça va créer un gros problème là, de disponibilité de nourriture pour tout le monde.
C'est ça. Dans le fond, on est dans une situation là, inversement proportionnelle, fait qu'on a une hausse de la demande en produits alimentaires avec une baisse là, de la fertilité des sols puis de la disponibilité là, de zones agricoles.
Mm-hmm.
Donc, ça va créer évidemment là, une situation qui peut être anxiogène, surtout qu'on sait là, qu'il y a plusieurs pays où le niveau de vie augmente, fait qu'on a des besoins là, plus spécifiques là, en termes de production. Ce qui entraîne là, encore plus de pression pour le moment là, sur la production.
Mm-hmm.
On a évidemment le cas, là, il y a plusieurs produits là, qui sont mis à mal, des exploitations plus précises qui sont, mises à risque, en péril. Bon, là, c'est sûr que le produit qu'on vous présente aujourd'hui, c'est peut-être pas un produit qui est nécessaire à la survie de l'espèce humaine, mais je pense qu'il est nécessaire à la survie de l'identité québécoise. Donc, c'est le cas du sirop d'érable qui est en péril. Donc, c'est un reportage de Radio-Can qui est sorti, là, dans le fond, hier, donc aujourd'hui...
Le 30 mars.
Le 30 mars. On enregistre un peu d'avance pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est ça. Avec le réchauffement climatique, la zone de climat favorable à la production acéricole va être réduite. Donc, cette zone-là, là, c'est où se trouve là, 75% des érablières au Québec. Donc, c'est ça. Elle va se transformer puis elle sera plus adaptée là, à la croissance des érables, surtout à la plantation là, de nouveaux érables dans ces zones-là. Donc, dans le fond, là, ce qu'on voit, c'est que cette zone-là, elle se déplacerait vers le nord. Donc, il y a des zones comme la Montérégie, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, qui seraient là, moins en moins favorables à la production du sirop d'érable là, et de tous les produits de l'érable. Donc, en ce moment, c'est sûr que là, la situation là, est préoccupante parce que les érablières, ils ne seront plus rentables dans les conditions qui vont varier là, dans les prochaines années. Puis évidemment, bien, ça met non seulement là, un secteur à risque, donc un produit de consommation, mais également un mode de vie puis des conditions de travail. Il y a beaucoup de gens dont c'est le gang-pain, donc c'est une entreprise, c'est beaucoup d'entreprises familiales. Donc c'est vraiment une culture entrepreneuriale qui est différente parfois de d'autres secteurs agricoles, même si, bon, la tendance familiale là, traverse quand même là, tout le secteur agricole. Mais c'est ça, donc... ce sera à suivre, mais comme on le dit, ça peut vraiment affecter les récoltes. Puis, on pourrait voir, par exemple, là, une diminution de la santé des arbres dans les prochaines années, donc les érables, une diminution de la disponibilité des produits, puis possiblement une hausse des prix. Donc, c'est sûr qu'au niveau là, du contrôle de l'offre du sirop d'érable, on devrait avoir beaucoup de changements là, au niveau du contrôle de la vente des produits acéricoles là, dans les prochaines années au Québec.
Ouais, ben, c'est un bon exemple de... on a souvent l'impression que ces problèmes-là sont loin de nous, mais c'est un bon exemple aussi que les changements climatiques, ben, ils ont des effets ici aussi, à un niveau très spécifique, donc dans la province de Québec.
C'est ça, puis sur des produits aussi auxquels on accorde pas juste une valeur alimentaire, mais une valeur un peu sentimentale, je crois, là, dans notre province.
Ouais.
J'aime beaucoup le sirop d'érable, je le dis.
Plus globalement aussi, comment l'insécurité alimentaire liée au changement climatique va se manifester autour du monde? C'est quoi un peu l'ampleur de l'insécurité alimentaire actuellement?
En fait, il faut savoir que même avant les conséquences des changements climatiques dans les dernières années, la sécurité alimentaire dans le monde s'est vraiment empirée. En fait, avant 2014-2015, la malnutrition avait diminué à travers le monde depuis 3 décennies. Mais depuis cette date-là, en fait, les cas de malnutrition à travers le monde ont augmenté pour atteindre environ aujourd'hui 820 millions de personnes qui sont en situation de malnutrition. On a également vu une détérioration de la sous-nutrition au niveau global. Puis là, ce que nous a appris le GIEC tout récemment, là, puis c'est avec haute confiance, c'est que toutes les dimensions de la sécurité alimentaire seront potentiellement affectées par les changements climatiques. Et ça, on va parler, oui, de la disponibilité. Donc ça, c'est ce que Jeanne nous parlait là, avec la production agricole, mais aussi à l'accès, à la consommation et à la stabilité des prix. Donc en fait, à cause des changements climatiques, le nombre de personnes qui vont être exposées à la faim à la malnutrition et à la mortalité qui est liée à l'alimentation va augmenter à cause de la disponibilité des aliments, en fait, et de leur qualité nutritionnelle aussi qui va diminuer. C'est un problème qui est global, mais il va y avoir quand même certaines zones qui vont être plus affectées. On pense notamment à l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique centrale. Puis ici, je pense qu'on peut tracer un lien super intéressant là, avec les principes de justice dont on a déjà parlé. En fait, c'est les personnes... les personnes qui ont moins les capacités de répondre à ce problème-là, puis les personnes qui en sont aussi le moins responsables de ce problème-là, qui vont être le plus affectées.
Mmh. Ouais, donc un lien direct là, avec le principe de justice, de responsabilité historique et de capacité, effectivement. Puis, ça nous amène à notre prochain sujet. En fait, dans tous nos épisodes, c'est vraiment de déceler les inégalités sociales qui sont engendrées par les changements climatiques, puis comment on peut les combattre aussi d'autre part. Et donc, dans le cas de la sécurité alimentaire, est-ce qu'on remarque, juste là, on vient de parler un peu des pays africains, mais est-ce qu'on remarque quand même qu'il y a des inégalités dans les impacts qui sont disproportionnés pour certaines parties de la population? Et en fait, en d'autres mots, est-ce que certaines personnes sont plus injustement affectées par l'insécurité alimentaire que d'autres?
Donc oui, c'est certain, il y a un lien entre les changements climatiques puis la sécurité alimentaire. Donc il y a des dimensions là, qui sont de nature socio-économique et de genre là, dans ces relations d'équité-là. L'impact des changements climatiques, c'est sûr qu'en agriculture, ça se fait particulièrement ressentir sur les populations plus pauvres, plus vulnérables. Et dans ce cas-ci, là, on entend également les femmes. Donc pour les femmes, la vulnérabilité là, se trouve vraiment dans toute la gestion de l'agriculture. Donc... le pouvoir, puis le rôle et les responsabilités qui sont associées à la femme dans le ménage, dans la communauté. Donc, souvent, les femmes sont beaucoup en charge de la production agricole, mais en même temps, sont souvent pas propriétaires. Donc, c'est pas elles qui font des revenus avec ça. Puis souvent, il y a une grande dépendance de ces femmes-là dans leur communauté à l'agriculture de subsistance. Donc, ce qu'elles peuvent garder pour elles, c'est vraiment juste ce qui leur permet là, de se nourrir. Mais là, évidemment, avec, on l'a dit, les changements climatiques qui vont impacter la quantité de produits qu'on peut produire, la rentabilité des sols, bien là, évidemment, il va y avoir là, une insécurité alimentaire. Donc, la production va diminuer, puis parfois, ils n'auront pas le choix de verser quand même là, une partie de leurs revenus là, aux propriétaires de la terre. Donc, au final, bien, ça peut entraîner une perte des terres agricoles chez les femmes. Donc, ils vont être obligés de migrer pour réussir là, à se nourrir ailleurs. Ou sinon, de l'insécurité alimentaire là, sévère, là, comme Annabelle parlait, là, de la malnutrition ou même de la sous-nutrition. Mm. Particulièrement dans les pays là, du sud global dont on parle dans les autres épisodes. Pour ce qui est des populations rurales, donc on le sait, l'agriculture, habituellement, c'est lié à la ruralité, donc ça se fait là, en périphérie des grands centres. Et souvent, les communautés qui y vivent sont dépendantes de l'agriculture de manière directe ou indirecte. Donc, que ce soit dans leur subsistance, leur mode de vie ou vraiment là, la vitalité économique là, de la région. Comme on l'a dit, les changements climatiques vont affecter ces pratiques-là. Donc, il faudrait considérer là, qu'il va falloir peut-être modifier, surtout au Québec, la façon dont on fait l'agriculture parce que ça engendre des coûts importants et beaucoup de précarité financière en ce moment, là, essayer de gérer là, l'imprévisibilité du climat pour ces gens-là.
Ouais, pour rebondir là-dessus, quand on parle de précarité financière, justement, les vulnérabilités face à l'insécurité alimentaire, ça va particulièrement toucher les populations plus pauvres, en fait, qui sont les premières affectées par la variabilité des prix, notamment dans de celle des aliments. Puis ça, c'est particulièrement vrai dans les zones urbaines, où les premières populations affectées, c'est les individus, les groupes qui ont des ressources limitées ou qui sont marginalisés socialement. Puis on le voit déjà là, dans notre quotidien, là, avec notre situation d'inflation, en fait, il y a plus de demandes pour les organismes communautaires. Les personnes plus pauvres, on l'entend dans les médias, doivent faire des choix alimentaires. On parle même, parfois, là, on l'entend là, à Radio-Canada, là, j'y pense, j'ai entendu ça dans les nouvelles récemment, mais des gens qui doivent presque faire un choix entre leur loyer puis leurs aliments. Puis ça, ben, ça risque d'empirer avec les changements climatiques. Donc, plus nos aliments vont devenir chers, plus les populations paupérisées, en fait, vont être vulnérables à l'insécurité alimentaire.
OK. Effectivement, ouais. Donc, on en conclut que le portrait n'est pas très glorieux non plus au niveau de l'alimentation, puis que les populations marginalisées sont encore plus affectées, puis ça crée encore un écart là, dans la population, là. En ce qui a trait aux inégalités sociales. Donc, il y a des solutions qu'on peut faire au niveau individuel. Surtout, c'est là-dessus qu'on s'est concentré, en fait, dans l'épisode. Mais des solutions individuelles pour changer nos habitudes de consommation et pour, justement, lutter à notre manière contre les changements climatiques. Donc, c'est quoi les solutions qu'on peut adopter pour avoir une alimentation plus durable et soucieuse de l'environnement?
Il y a plusieurs types de solutions pour changer là, nos habitudes de consommation alimentaire. Il y en a trois là, qu'on va vous présenter là, plus en détail. Donc, évidemment, là, il y a le régime alimentaire. Donc, c'est possible de diminuer la consommation de viande, qui est particulièrement, on va le voir, là, dommageable pour le climat. Sinon, privilégier les aliments locaux, puis évidemment, diminuer les déchets alimentaires.
Donc, pour ce qui a trait au type de régime alimentaire, c'est quand même intéressant de s'intéresser à comparer les aliments, en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre par kilogramme d'aliments. En fait, quand on s'intéresse à ces statistiques-là, il n'y a rien de plus polluant que la viande. Il en reste que certaines sont moins polluantes que d'autres. On pense notamment au bœuf, qui est 7 fois plus polluant que la volaille en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui est 22 fois plus polluant que le tofu et 176 fois plus polluant que les noix.
Mm.
Bon, là, on a comparé en termes de kilogrammes, mais même quand on s'attend en fait aux aliments par rapport à leur apport nutritif, donc ici, calories, protéines, en fait, ce sont encore les produits animaux qui vont trôner au-dessus de la pyramide. Là, on pense de à la viande rouge, aux crustacés, aux produits laitiers. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces aliments-là vont produire plus de GES? Bon, on va faire ça rapidement, là. D'abord, la production de viande, de produits animaux, ça requiert beaucoup, beaucoup de terres agricoles. Puis ces terres-là sont créées, en fait, en abattant des arbres. Donc, c'est une cause importante de la déforestation. La déforestation, c'est très dommageable, mais c'est aussi responsable de libération de CO2, en fait, qui est stocké dans nos forêts. Puis, 80 % des terres agricoles sont utilisées pour la production de viande et de produits laitiers. Donc, c'est quand même assez important. Mm-hmm. Puis ensuite, ça peut paraître banal, là, mais les fameuses flatulences ou les déjections bovines là, dont on parle souvent, ça émet du méthane lorsqu'ils digèrent et de l'oxyde nitreux, ce qui sont deux puissants GES. En fait, on parle, d'émissions assez pharaoniques. Le méthane, c'est 80 fois plus polluant que le CO2, et l'oxyde nitreux, c'est 300 fois plus élevé.
Oui, puis en plus, la production d'aliments d'origine animale est relativement inefficace en termes énergétiques puis de production de protéines. En fait, là, ce qu'on remarque, c'est que la production animale, évidemment, c'est des animaux, donc elle requiert d'autres sources alimentaires parce qu'il faut nourrir les produits de l'élevage, contrairement là, à la culture. Donc, par exemple, les céréales, donc c'est 40 % de la production mondiale de céréales qui est utilisée pour nourrir les animaux d'élevage qui ensuite vont nous nourrir. Donc, c'est ça. Les céréales ne sont pas perdues en soi, là, parce qu'ensuite, c'est comme converti en produits animaux qu'on va consommer, mais ça reste que dans certaines régions du monde, ces céréales-là auraient pu être consommées là, par d'autres personnes. Ensuite, on dit souvent que la viande, elle est plus nutritive et plus dense en nutriments que les autres aliments. C'est sûr que c'est vrai, mais en termes là, de production, le processus est inefficace en termes de calories et de protéines totales parce que la majorité des intrants dans l'élevage, ben, au final, il ne se traduisent pas directement là, par une production supplémentaire, par exemple, de viande, de produits laitiers, tout ça. Donc, au final, l'équation, là, elle n'est pas très rentable. Pas seulement en termes économiques, mais en termes, par exemple, là, de production, en termes de quantité, puis en termes là, d'apport alimentaire. Donc, voilà. Donc, de là, là l'intérêt peut-être de se tourner, pour certains, vers des sources comme le tofu, les pains, pâtes, légumineuses, etc.
Oui, donc, on va vous donner quelques recommandations, en fait, pour votre régime alimentaire basé sur celle du GIEC. La première, c'est de privilégier les aliments à base de céréales, de légumineuses, de fruits, de légumes, de noix et de graines. Ensuite, ça serait de diminuer notre consommation de produits d'origine animale. C'est sûr que si on désire les garder dans notre diète, c'est correct, mais il faut essayer de choisir des produits qui sont, des produits qui proviennent, oui, d'installations résilientes, durables, tout en diminuant, justement, ces produits d'origine animale. Puis finalement, il ne faut pas négliger le potentiel des protéines alternatives. On va penser aux substituts végétaux à la viande ou aux produits laitiers. Des protéines aussi qui proviennent d'insectes. Puis finalement, ben, les viandes cultivées en laboratoire qui semblent être des sources prometteuses.
OK, intéressant.
Oui, ben c'est ça. En effet, là, on ne demande pas aux gens là, d'avoir... Le but, ce n'est pas que tout le monde soit parfait. Le but, c'est juste que tout le monde fait un effort pour diminuer sa consommation de produits d'origine animale. Si tout le monde le fait, au final, on va arriver à l'objectif. La deuxième mesure, bien évidemment, que vous pouvez faire, c'est privilégier l'alimentation locale. Donc, manger local, c'est une recommandation qu'on entend souvent. Pourquoi? Parce que ce que vous avez dans votre assiette, son empreinte carbone est beaucoup liée, là, comme le dit Annabelle, aux autres étapes, fait que le transport notamment. Donc, plus vous achetez à proximité, bien, moins c'est polluant là, et moins ça nuit au climat. Donc, je vous invite à consulter plusieurs là, initiatives qui vous permettent ensuite de regarder là, les produits à l'épicerie puis de voir là, qu'est-ce qui est plus carboneutre. Notamment, là, intéressez-vous au collectif Mange ton Saint-Laurent. Ils ont des produits de la pêche durable, mais la pêche locale. On a tendance à exporter nos pêcheries. Il faudrait peut-être commencer par consommer là, les produits qu'on produit ici. Avant de faire venir, par exemple, des crevettes qui viennent là, de l'autre bout du monde. Je pense qu'on en a suffisamment ici.
Puis finalement, pour notre troisième solution, en fait, ça serait la diminution des déchets alimentaires. C'est une solution qui est très efficace, en fait, pour réduire l'impact environnemental de notre alimentation. J'aime bien les statistiques, là, je vais vous en donner une autre. En fait, c'est 1 billion de tonnes de nourriture qui est gaspillée chaque année. Ça équivaut à 17 % de la nourriture qui est disponible pour la consommation. Le fait, en fait, de produire, de transporter, puis de laisser pourrir cette nourriture, ça serait responsable de 8 % des émissions globales de GES. Puis là, je vais vous donner un exemple un peu farfelu, là, mais si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le troisième plus grand émetteur mondial de GES, tout juste derrière la Chine et les États-Unis. Donc, c'est pas l'entièreté du gaspillage alimentaire, en fait, qui est attribuable à nous, aux consommateurs, consommatrices, mais on peut prendre des actions vraiment concrètes pour le diminuer. Par exemple, en repensant nos manières d'acheter, de préparer ou de jeter la nourriture. Moi, ce que j'aime bien faire de mon côté, c'est que quand je dois vraiment jeter un aliment, ben, il faut que j'essaie de me visualiser que quand je le jette, ben, je gaspille de l'énergie, une petite part de terre agricole, de l'eau, des engrais, puis toutes sortes de ressources, en fait, pour le produire, pour l'emballer, pour le transformer, pour le transporter aussi. C'est ça. Donc, c'est quand même une image qui est forte puis qu'il faut implanter dans notre quotidien quand on a l'habitude de jeter. Donc, en fait, arrêter de gaspiller, ça équivaut aussi à préserver ces ressources-là pour les générations futures, puis aussi, ben, à sauver de l'argent. Finalement, d'autres petits trucs, acheter ce qu'on a vraiment besoin et vider totalement ou presque notre frigo avant de retourner à l'épicerie. Puis finalement aussi, ça, c'est une solution intéressante, mais à l'épicerie, n'hésitez pas à acheter des fruits, des légumes imparfaits. Là, on en a entendu parler dans les dernières années.
Puis il y a même des produits aussi qui sont souvent rabais parce que la date de péremption est proche ou des choses comme ça. Donc ça, ben, ça peut être bon pour le portefeuille, mais c'est aussi, bon pour l'environnement.
Il y a même, si tu me permets rapidement, Naomi, il y a une application qui est lancée là, dans le coin de Sherbrooke qui, dans le fond, là, les épiceries peuvent annoncer quand ils ont des produits là, qui approchent la date de péremption, puis vous pouvez aller les acheter là, à rabais. Donc, c'est sûr que ce serait des initiatives là, qui pourraient être...
Ah oui, on va parler, on va mettre ça dans sur nos réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
C'est une bonne recommandation. Merci, Jeanne. Donc, merci pour les solutions, les filles. Donc, c'est ça, on voit que les changements climatiques ont encore des effets sur la population mondiale, notamment sur le risque de sécurité alimentaire, puis que, encore une fois, ça engendre de graves problèmes de justice. Mais là, comme on peut voir, c'est sûr qu'on n'a pas élaboré sur des solutions plus au niveau de la collectivité ou plus qui peut être fait là, au niveau étatique. On l'a plus fait au niveau individuel, mais ça aide quand même de savoir que nous-mêmes, on peut prendre les choses en main, puis qu'on peut changer la donne un peu par nous-mêmes. Donc, on va être rendu aux actualités climatiques. Beaucoup de documents qui ont sorti dans les dernières semaines. Donc, Annabelle, tu commences par le rapport du GIEC qui a été publié le 20 mars.
Oui, en fait, ce rapport, c'est vraiment un avertissement aux décideurs et décideuses du monde entier face à l'urgence, en fait, de la crise climatique. Ce que ça nous a appris là, très rapidement, c'est que notre planète s'est réchauffée de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, puis qu'il y a vraiment déjà des conséquences qui sont visibles, et ce, partout sur la planète. Le rapport aussi a émis certaines prédictions, comme quoi l'objectif du 1,5 degré qu'on s'était fixé, bien, c'est pratiquement hors de portée. La cible du 2 degré est menacée également. Puis, ben c'est ça, en fait, on est vraiment dans une situation ben, d'urgence. Puis, la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est une lutte qui n'est pas hors de notre portée. La lutte climatique, c'est une lutte fondamentalement politique. En fait, on sait qu'on a les outils, la technologie, les ressources financières dont on a besoin pour surmonter ce problème-là. Mais ce qui nous manque pour l'instant, c'est une volonté politique afin de résoudre ce problème. Mm. Donc, c'est des conclusions qui sont alarmantes, mais on a la possibilité d'y échapper. On peut encore prévenir des dommages puis des catastrophes qui seront irrévocables. Mm-hmm.
Puis, ben, au niveau plus local, en fait, il y a les deux budgets. En fait, le budget au niveau provincial du Québec qui a été déposé le 21 mars dernier, mais on a aussi le budget fédéral qui a été déposé le 28 mars dernier. Et en fait, les deux incluent des mesures là, pour lutter contre les changements climatiques.
Oui, donc je vais vous parler vraiment rapidement du budget du Québec. En fait, on a une bonne nouvelle. Je vais y mettre quelques bémols après, là, mais une hausse de 14 % des budgets en environnement entre 2022 et 2023. Donc, ça va être 2,4 milliards qui vont être destinés à l'environnement en 2023-2024. Je vais tout de suite vous parler des bémols, en fait. Oui, il y a une augmentation des budgets, notamment pour respecter nos engagements internationaux. Là, on pense à la COP15 et tout. Mais... En fait, il n'y a pas de plan précis encore qui a été émis. Donc, le plan de mise en œuvre de ce budget-là va être connu seulement au printemps. Donc, c'est impossible de savoir à quelle mesure vont être destinés ces 2,4 milliards. Donc, avant de se réjouir, il va vraiment falloir attendre ça parce que des fois, il y a des mesures qui peuvent être plus ou moins acceptables. Moi, je pense notamment au financement des voitures électriques là, avec l'argent des contribuables. On pourra en reparler.
Mm-hmm. Dans un autre épisode, très ouais. intéressant.
Mais sinon aussi, rapidement, là, le secteur des transports, ben, le gouvernement a financé deux fois plus les routes que le transport collectif là, dans son... dans son budget le 2023-2024.
Oui, ça, c'est une mesure là, qui est à prendre en compte. Donc, budget fédéral aussi qui a été présenté. Donc, en fait, c'est un budget qui s'inscrit dans le contexte d'inflation, mais on voit quand même qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place pour accélérer la transition énergétique. En fait, les mesures qui ont été mises en place, c'est des crédits d'impôt qui totalisent jusqu'à 82,7 milliards de dollars. Des crédits d'impôt qui sont mis en place pour attirer les investissements dans les énergies propres. Donc, quand on parle d'énergie propre, on parle de production d'électricité propre, incluant l'hydroélectricité, mais aussi la fabrication d'énergie propre, production d'hydrogène et aussi projet de captage et stockage de carbone. Donc, il y a trois mesures là, plus spécifiques. Donc, des crédits d'impôt de 15 % pour l'électricité propre qui vont être aussi offertes aux sociétés d'État, qui pourraient être offert aux sociétés d'État comme Hydro-Québec. Puis, on a aussi un crédit d'impôt remboursable de 30 % pour la fabrication des technologies propres et pour l'extraction de transformation et la transformation de minéraux critiques comme le lithium là, pour les batteries. Et finalement, on prévoit aussi que la Banque de l'infrastructure du Canada va investir au moins 10 milliards de dollars dans l'énergie propre et au moins 10 milliards dans les infrastructures vertes. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Donc, merci les filles, c'est déjà la fin de notre émission qui portait sur l'alimentation et les changements climatiques. Je vous rappelle que si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook dans la mer climatique, mais aussi par courriel à l'adresse dans la mer climatique à commercialoutlook.com. Pour finir, je vous remercie, comme toujours, d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de Chiz 94.3. À bientôt!